Sur les ondes de CKRL 89.1, vous écoutez La Vie en BD. Bonne fin de semaine à tous et à toutes, je pense qu'on peut le dire, puisqu'il est 17h30, alors le week-end est très proche s'il n'est déjà débuté. Et évidemment, comme à chaque semaine, eh ben on a le plaisir de débuter cette fin de semaine ou ce dernier sprint dans l'univers de la bande dessinée. Plusieurs regards aujourd'hui qu'on aura l'occasion de porter ensemble. Au micro, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 également, comme à l'habitude. Et côté rencontre, deux belles entrevues qu'on aura l'occasion de réaliser aujourd'hui. Notamment l'auteur Jacques Lamontagne qui a fait double tâche, double charge en ce mois d'avril. Il a offert donc deux séries, sixième tome de la série Les Druides, dernier tome d'ailleurs de ce cycle qui a connu quand même une belle popularité, on parle de BD fantastique ici, et également tome 2 de la série Haven, l'anneau de Damar, également côté fantastique, et dans un cas Les Druides, il est dessinateur, dans l'autre cas, il est scénariste. Alors, on aura l'occasion également de parler travail avec lui et autour de ces deux parutions. Également, autre récente parution, en fait, la semaine dernière, on vous avait parlé du Chez-Soi d'Ariane Denommé, qui était l'un des deux premiers livres chez cette nouvelle maison d'édition qui s'appelle La Mauvaise Tête. Eh bien, on aura l'occasion d'explorer un peu plus attentivement cette semaine l'autre volet de ce double lancement qui avait eu lieu lors du Festival de la bande dessinée de Québec. Il s'agit du livre La Muse récursive de David de Turgeon, et pour lui, il faut dire, on peut presque parler, on en reparlera d'ailleurs avec lui, d'une saga ou d'une épopée pour publier ce livre. Il y avait eu une première tentative de publication, je crois que c'était en 2006-2007, d'un premier tome. Il avait connu d'ailleurs un très beau succès avec ce premier tome. Finalement, pour différentes circonstances, il y avait eu pause dans la parution, et l'on se retrouve en 2012 avec enfin donc ce récit complet, une belle galette de 300 pages très intéressante d'ailleurs. Donc ce sera un plaisir de parler avec lui tout à l'heure. Mais pour l'instant, portons d'autres regards sur des BD récentes, puisqu'on a le plaisir d'avoir en ligne Anne-Marie Olivier de chez Phylactère. Bonjour.
Bonjour Raymond.
Ça va bien?
Oui, ça va, merci.
Et beaucoup de beaux arrivages ces temps-ci, côté BD, là, il faut le dire.
Oui, vraiment, puis assez varié, donc il y en a vraiment, encore une fois, pour tous les goûts.
Et cette semaine, Anne-Marie, deux titres sur lesquels on s'attardera plus attentivement. Il y en a un, tout à l'heure, je mentionne le titre parce qu'il est assez chouette. En fait, la musique actuelle pour les sourds et les malentendants,
oui.
On y reviendra tantôt. Commençons par Post-Mortem de Pierre Morel.
Alors oui, Post-Mortem qui est sorti en février, donc c'est assez récent chez Gallimard dans une collection vraiment sympathique, collection Bayou. Donc Post-Mortem, ça parle de mort, mais on est loin de l'univers de Walking Dead. Ça va comme suit, à peu près le synopsis, c'est on est dans nos sociétés actuelles et Jérémy, qui est le jeune héros de cette histoire, voit un peu d'un mauvais œil ces gens qu'on appelle des post-mortem, des gens que le gouvernement a ressuscité pour bénéficier d'une main-d'œuvre gratuite pour faire les tâches dont personne ne veut. Et évidemment, lui, il est contre ces post-mortem, et un jour, il va être lui-même renversé par une voiture et va devenir un post-mortem. Donc, va se retrouver carrément de l'autre côté de la médaille et va découvrir l'enfer, en fait, de cette vie, si on peut dire ça comme ça. Et il sera pourchassé. Il doit vraiment fuir et trouver un moyen de survivre à sa mort encore une fois. Donc, c'est assez spécial comme... Mm-hmm. Comme thème, et c'est véritablement une chronique sociale, et c'est aussi doublé d'un récit d'anticipation. On a l'air un peu sur un truc futuriste, mais le côté réalité de la situation vient vraiment enlever tout ce qui peut être récit là, post-apocalypse ou quoi que ce soit quand on se retrouve dans l'univers des morts vivants.
Effectivement, et l'idée de l'alliage justement de différents styles comme ça, ça doit donner un résultat qui est assez riche, qui est assez aussi en fait dynamique là, parce qu'on varie dans le ton, dans les préoccupations, etc.
Oui, puis en plus, comme je dis, on s'éloigne vraiment des ambiances là, de zombies. On est au contraire dans un monde réel, puis dans un monde où la société carrément réveille ses morts pour disposer d'une main-d'œuvre gratuite puis qui a aucun droit. Et ces revenants qui sont pas du tout dangereux, qu'on appelle évidemment les post-mortem, sont vraiment au cœur d'un propos politique. Et le fait de mettre en scène justement ce jeune homme qui est contre les post-mortem et qui en devient un par la suite, ça amène vraiment une espèce de dualité qui se reflète dans la société entière. Puis on comprend rapidement qu'en lisant le texte, on pourrait facilement remplacer les post-mortem par immigrés, par exemple. Mm-hmm. Donc, ça donne vraiment un angle assez large sur les problèmes des sociétés actuelles qui se disent humaines et civilisées. Donc, tout un débat de société qui est abordé vis-à-vis ce thème fantastique à la base, mais qui donne un certain électrochoc, en fait, plus la lecture avance.
Et ici, on parle d'un roman graphique, d'un one-shot, comme on dit.
Oui, exactement. C'est aussi ce n'est pas Pierre Morel est bon pour poser une question au lecteur en fait et après ça libre au lecteur de se faire sa propre opinion. C'est ce qui peut être dérangeant parfois parce que souvent on a l'impression qu'il ne finit pas son histoire. C'était le cas un peu avec Blackbird, précédente BD dont j'avais parlé, mais quand même même si c'est un peu dérangeant au départ, on se rend compte en fait que le propos n'est pas tant dans la bande dessinée mais vraiment sur le récit, la question qu'il apporte. Et moi personnellement j'en viens à oublier cette espèce de fin ouverte en fait qui n'est pas importante, qui est plutôt dans le l'incrédulité du récit. Puis c'est très rythmé, il y a beaucoup d'action, puis le dessin qui est un à mi-chemin entre un dessin semi-réaliste quand même qui cadre vraiment bien avec le récit.
Et comme on dira, ben c'est une BD à discuter après
oui,
l'avoir lu. Et même en fait déjà autour de la chronique, j'ai l'impression qu'on aurait de quoi jaser pas mal. Ça c'est Post-Mortem donc de Pierre Morel chez Gallimard. Et deuxième regard cette semaine, Anne-Marie Olivier, ce titre donc fort sympathique. La musique actuelle pour les sourds et les malentendants, c'est de Terreur Graphique et d'Amprenny Jack. Quand même.
Une BD que j'ai adorée, qui est éditée chez Vraoum. Et c'est d'abord une adaptation papier du blog La musique actuelle pour les nuls sur le site des Inrock, oui. Donc par Terreur Graphique et d'Amprenny Jack. Et franchement, c'est une BD à prendre au premier degré, mais c'est tellement agréable à lire. C'est une BD qui parle évidemment de musique, mm-hmm. mais qui suit un fil conducteur en la personne de Georges, qui est un de ces mélomanes élitistes, qui est dans sa quête d'absolu musical, de jugement catégorique, enfin bref, plusieurs personnes peut-être qui pourront mettre des noms sur ce type de personnes-là. Et pour ce personnage-là, ce héros-là, en quelque sorte, la musique est séparée en trois catégories bien, bien tranchées qui vont comme suit. Donc, première catégorie, si tout le monde connaît le groupe dont on parle, c'est pas de la musique. Si c'est en front page des magazines spécialisés, c'est trop commercial. Puis si c'est connu par une poignée de personnes, c'est soit de la merde ou soit un bijou brut. Donc, c'est assez tranché comme catégorie. Et donc, on lit cette bande dessinée-là qui se laisse apprivoiser au premier degré d'abord. C'est assez drôle, c'est assez grinçant aussi. Puis finalement, plus la lecture avance, c'est qu'on se rend compte que les auteurs qui sont eux-mêmes ces espèces d'énergumènes-là de la même race que Georges s'amusent à le mettre face à ses contradictions puis ses absurdités.
Donc, une espèce d'exploration du monde de la critique musicale, mais d'une critique très, très, très pointue ou un peu liée à ces phénomènes, à la Pitchfork, par exemple, si on parle de ces éditions où on dénonce ou on critique souvent que c'est justement un peu élitiste comme vision. Est-ce que ça amène aussi une certaine compréhension de ces phénomènes-là ou des outils d'exploration aussi pour ceux qui sont un peu extérieurs à ces préoccupations-là?
En fait, ça amène. C'est vraiment une BD qui est plutôt sur l'humour et sur la musique carrément. Okay. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui n'écouterait pas beaucoup de musique va peut-être se sentir un peu dépassé ou pourrait peut-être, si la personne est un peu susceptible, de mal le prendre, en fait. Mais c'est vraiment une critique plutôt constructive et ça se veut aussi un outil pour aller chercher d'autres types de musique parce qu'on met des playlists. C'est un des seuls aspects négatifs de cette BD, en fait, c'est qu'on aurait aimé avoir un CD pour pouvoir écouter toutes les chansons, les groupes qui sont proposés dans cette bande dessinée-là. Mais en fait, même si dans Envers et contre tous, le héros s'obstine, puis qui continue, qui est imperméable à ses critiques, cette BD-là devient une espèce de déclaration puis un manifeste, en fait, juste envers une proclamation de l'amour de la musique, et c'est ce qui devient le centre de la vie de ce héros-là, et le centre de la vie de ses lecteurs aussi. Donc, c'est une BD qui peut être pris sur plusieurs aspects, mais en autant qu'on aime la musique, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment sympathique à aller chercher là.
Et côté graphisme, côté dessin, c'est un peu dans l'esprit des blogs un peu croquis où on y va quand même assez parce que la référence gigue en termes,
c'est peut-être le petit livre. Un peu moins le style de Terreur graphique qui nous, surtout avec sa dernière BD qui était Rupture tranquille, qui nous avait quand même habitué à un dessin assez léché. Là, on est plus dans un trait un peu plus relâché. Mais ça en reste pas moins efficace, puis ça percute vraiment avec le style de musique parce que, justement, on est sur des rythmes assez saccadés aussi, donc le dessin suit cette tangente-là, et on voit franchement un côté caricatural de tous ces acteurs de la musique actuelle, donc groupes, chanteurs, leaders, qui sont caricaturés de la part de Terreur graphique et qui font beaucoup rire.
Et si on fait le comparatif en terminant de Marie avec le petit livre Rock ou le petit livre Beatle d'Hervé Bourris, est-ce que c'est un peu dans la même trempe ou en termes d'humour et de trucs qu'on aime à feuilleter, qu'on aime à parcourir?
Je dirais que la musique actuelle pour les sauts va avoir un côté un peu plus irrévérencieux et condescendant, en fait, quand même, parce que justement on se moque vraiment de cette tangente de vouloir tout radicaliser la musique, alors que le petit livre rock est beaucoup plus une chronique dans le temps et qui nous fait connaître l'histoire de la musique. Mais amateur de musique, aller chercher cette bande dessinée là, c'est vraiment très très intéressant.
Alors, c'est La musique actuelle pour les sourds et malentendants de Terreur graphique et Dame Premier Jack chez Vraoum.
Voilà.
Anne-Marie Olivier, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et on se dit à la prochaine.
OK. Bye bye. Soirée.
Et on poursuit à la vie en BD. Petite mention également pour demain, en fait, séance de dédicace. Quand il y en a, on vous les annonce, on se fait un devoir de le faire. Et notamment, on a parlé la semaine dernière à Jimmy Beaulieu qui lançait donc son recueil Le Temps des siestes chez Alto. Eh bien, il va être de passage à Québec demain, samedi 28 avril, chez Philactère, sur la rue Saint-Joseph. On parle d'une séance de dédicace qui aura lieu de 14h à 17h. Alors, une belle occasion. Allez, se faire un petit croquis. J'aurais comme l'impression que M. Beaulieu va dessiner des corps féminins dans cette séance de dédicace. En fait, du moins, ça serait dans la thématique, comme on dit. Ah ben voilà, notre artiste de la semaine, on écoutera deux extraits de cette formation. Ça s'appelle Avec Podcast, que vous connaissez peut-être. Si vous connaissez, vous êtes bien content. Sinon, vous allez être content. Alors, on s'en va en musique. On va écouter la pièce Défrichage. Et au retour, on jase avec Jacques Lamontagne.
À peine sorti de nos ravages, dans un bruit de scie mécanique, chercheur de l'or, bûcheur de terre, trouveur de lumière dans la mer. Défriché jusqu'à la clôture, pour voir qu'il n'y avait rien derrière. Banquise de plâtre et de poussière, l'écho errant dans le vitesse de la lumière. On voit moins clair par les chaussées. Nous avons beaucoup trop d'amis. Tu en as 1860. Patience d'une file d'attente, la tête humide et les beaux trempes, le chauffage se rebondit chez toi.
Et on vient d'entendre Défrichage, la formation avec Podcast, toujours ici sur les ondes de CKRL. Et on poursuit ses regards sur la BD, notamment sur les publications du mois d'avril et les environs. Notamment l'auteur Jacques Lamontagne qui nous a offert deux séries, l'une en tant que dessinateur, l'autre en tant que scénariste. En fait, deux tomes de ces séries. Sixième tome de Druide Crépuscule et également deuxième tome de Haven, l'anneau de Damar. Les deux séries sont chez Soleil, voilà, et l'auteur est avec nous, Jacques Lamontagne, bonjour.
Bonjour.
Et d'abord, peut-être commençons par les druides, parce que, bon, c'est un peu une conclusion du premier cycle de cette série-là. Comme on dit, toute bonne chose doit avoir une fin.
Exactement. Bon, l'aventure a commencé en décembre 2004, au moment de la signature avec les éditions Soleil. Et puis, je me doutais un petit peu du nombre d'albums qui allaient figurer au tableau pour cette première aventure. Sauf qu'on m'avait dit, bon, tout dépendant du succès, ça va virer autour de 4 albums à 5 ou 6 albums. Donc, l'aventure s'est poursuivie quand même sur 6 albums là, pour clore ce premier thème, ce premier mystère avec la série de meurtres chez les moines.
Et il y aura d'autres cycles probablement, mais d'abord, en fait, d'ailleurs, un cycle, une histoire sur 6 livres. J'ai l'impression que vos autres séries qui sont venues par la suite ou en parallèle, c'est plutôt des 2-3 tomes. Ça doit être quand même un bon défi de développer une histoire sur 6. Il faut avoir quand même une bonne patience aussi dans son développement.
Oui, ben en fait, ça demande beaucoup de souffle parce que on est à quelque part prisonnier d'un type d'univers, d'un récit, de poursuivre ça, de poursuivre une aventure comme ça sur presque 7 ans, c'est quand même énorme là. Donc c'est pourquoi pour les autres séries, je désirais m'investir un petit peu moins longtemps de m'investir plus sur quelque chose de un album ou deux albums là, ce qui était un rythme moins soufflant.
Oui, des récits en fait où on peut aller plus rapidement dans le fond au terme pour pouvoir développer d'autres ramifications s'il y a lieu là.
Oui, puis il y a aussi le fait que les lecteurs sur 6 albums doivent quand même attendre un bon petit bout de temps avant de connaître la conclusion de l'histoire. Donc pour ce qui est des druides, il y avait quand même une saga qui était importante et puis qui méritait là qu'on se prolonge sur 6 albums, mais par contre, il y a aussi d'aborder des histoires là, qui sont un peu plus courtes, qui est intéressant puis qui est plus satisfaisant parfois pour les lecteurs là. On connaît immédiatement, on connaît la conclusion de cette fameuse histoire là.
Et quand on pense aux druides, qu'au côté dessin notamment, côté univers, c'est une série à grand déploiement là. Si ça serait un film, je veux dire, ça serait immense.
Ah oui. Au niveau budget là, ça coûterait quand même pas mal cher parce que je pense pense que les deux scénaristes, Jean-Luc Christin et Thierry Gigourel, ont voulu en mettre beaucoup. Il y a beaucoup de scènes de bataille et puis des scènes très épiques, là. Donc, pour le dessinateur, ça, c'est quand même pas mal de boulot également.
Et comment vous y prenez justement pour orchestrer tout ça, les scènes de bataille, pour qu'on s'y retrouve? Et j'imagine de bien doser que les transitions se fassent aussi entre les moments très, très chargés et des moments plus intimistes aussi dans le récit.
Oui, ben en fait, le dessinateur, bon, ça dépend toujours des projets, des séries. Moi, pour ma part, lorsque je suis dessinateur, j'essaie de pas trop m'investir, de pas trop déborder du côté scénario, c'est-à-dire que je laisse le soin au scénariste de dresser les grandes lignes des histoires et puis de me proposer leur histoire, leur vision des choses, et puis moi je m'applique à le faire sans être nécessairement un exécutant. Bon, j'aime bien leur laisser ce rôle-là de scénariste à eux. Donc, c'est Jean-Luc Christin et Thierry Gigourel qui, en fait, eux m'amenaient bon vers ces scènes-là et puis rythmaient les albums. Mm-hmm. Donc, c'était eux qui étaient décideurs, si on veut, là, de ces séquences-là.
Et pour ceux qui suivent votre travail, en parallèle aussi, vous aviez fait, en tant que dessinateur Aspic avec Thierry Gloris, dont le style graphique est quand même assez différent des druides. Est-ce que ça a été facile de revenir aux druides après avoir fait Aspic?
Ça n'a pas été évident. En fait, la décision de travailler sur Aspic était pour moi importante parce que je voulais justement parce que ce qu'il faut dire, c'est que les dernières années, je me suis fait proposer différents projets chez différents éditeurs, mais avec assez souvent une thématique qui tournait autour des druides, ou bon, c'était la période médiévale ou prémédiévale, et je voulais pas être catégorisé dans ce style-là uniquement. Donc pour moi, Aspic, c'était un projet qui était important. Pourquoi? Parce que bon, de un, je sortais un petit peu de cette période-là. Aspic se déroule à la fin du 19e à Paris, mais également par le traitement graphique, où est-ce que j'ai amené quelque chose d'un peu plus rond, donc pour vraiment créer une distance par rapport à l'autre série, celle des druides.
Oui, moi je trouve ça intéressant, ça montre aussi votre capacité à varier justement le style graphique. Ça nous montre que vous n'êtes pas limité à un style, mais au contraire que vous êtes capable aussi de l'adapter pour servir le récit, pour servir l'univers, ou pour le plaisir de faire autre chose aussi, j'imagine, de votre côté.
Oui, exactement. En fait, moi, ce côté-là caméléon vient du fait que pendant plus de 20 ans, moi, j'étais illustrateur publicitaire, et qu'il fallait savoir s'adapter à différentes techniques, différents styles. Donc, ça m'a servi avec la bande dessinée. Bon, puis il y a aussi le fait que pour Aspic, pour revenir à cette série-là, ça faisait longtemps que j'avais le goût d'aborder une thématique comme ça, puis très Sherlock Holmes, et à la fin du 19e, bon, c'est une période charnière que j'aime beaucoup, donc c'était salutaire pour moi, je dirais.
Et la transition, le retour à l'autre style, est-ce que justement on a dû se battre un peu au début du dessin de druide pour retrouver le bon trait, ou...
Ah oui, en fait, c'est d'autant plus vrai que lorsque j'ai fait le premier tome d'Aspic, je travaillais en alternance avec les druides. Donc, un mois, je travaillais sur Aspic, un mois sur les druides. Et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas une bonne idée, parce que ça me demandait une période d'adaptation à chaque fois pour me retremper dans l'univers, mais également pour me retremper dans cette patte graphique-là, parce que je changeais à chaque fois. Donc, c'est pourquoi, bon, avec le tome... je suis à travailler sur le tome 7 des druides. En fait, j'ai fait le tome 6 dans une même foulée, parce que justement, je voulais éviter ce chevauchement-là entre les deux projets, là, qui était un petit peu déstabilisant.
Et c'est plus facile, j'imagine, de joindre côté chevauchement, justement, un chevauchement dessin et scénario, parce que c'est deux exercices distincts, mais qui touchent pas à la même technique, si on peut dire.
Ouais, ben en fait, je me rends compte que la concentration est tout aussi élevée lorsqu'on scénarise, mais c'est pas le même type de travail. Donc pour moi, de changer de casquette et de passer de dessinateur à scénariste, c'est moins, je dirais, moins pénible que de changer de projet au niveau dessin. C'est moins difficile comme exercice.
Est-ce qu'on a l'impression que quand on travaille comme scénariste, exemple pour Aven, il y a eu également Yuna avant, qu'on a beaucoup de responsabilités face à justement la cohésion de l'univers et pour alimenter aussi de manière adéquate le dessinateur avec qui on va travailler?
Ouais, ben d'un, on a une responsabilité financière. financière auprès du dessinateur, c'est-à-dire que on doit lui livrer les planches scénarisées, les pages scénarisées de façon ponctuelle parce que il faut qu'il gagne sa croûte avec ça là. Donc ça c'est la première chose. Il y a une responsabilité de ce côté-là. Ensuite de ça, moi j'essaie autant que possible de quand je bâtis un univers de me projeter, c'est-à-dire d'englober les si ça se tient sur 3 tomes, d'avoir déjà une idée de qu'est-ce qui va se passer puis de quelle façon ça va se conclure. Du moins avoir les grandes lignes de chacun des albums, parce que sinon ça devient très difficile. Je sais qu'il y a des scénaristes qui réussissent à, comment je pourrais dire, improviser un petit peu à travers l'avancée des albums. Moi je préfère avoir une vision très précise de l'entièreté de l'histoire.
Oui, puis en fait, j'imagine avec une série comme Avenge, justement, on a comme pas le choix. Je veux dire, c'est tout fou. Il y a beaucoup de mystères, de questions, de portes qui s'ouvrent, qu'on ferme côté récit. Donc, il faut savoir un peu où comment on va finir le premier triptyque à tout le moins.
Ah oui, absolument, on n'a pas le choix. Et puis même si il faut pas se le cacher, Aven et Yuna, c'était quand même, moi j'aime ça pour ces deux projets-là spécifiquement. Je voulais faire quelque chose, une histoire où est-ce qu'on se prend pas trop la tête, là, que le lecteur bon s'amuse, le ton est quand même assez léger. Même si bon, Aven, il y a un scénario qui est quand même un peu plus complexe là, parce qu'on va se rendre compte avec le tome 3 que chaque personnage mène sa propre quête, mais il y a un destin qui les unit. Et donc, c'est comme trame, c'est un peu plus complexe. Là. Mais j'ai un autre projet qui s'en vient, qui devrait paraître en juin, qui va paraître en juin du côté de l'Europe. Et là, c'est un thriller psychologique où est-ce que, au niveau de l'écriture, là, on est beaucoup plus rigoureux, plus sérieux, la tonalité, beaucoup plus de documentation aussi. Là, donc,
moi qui pensais pouvoir vous étiqueter en disant le style de scénario de Jacques Lamontagne, c'est avec une pointe d'humour. Et finalement, vous allez redresser les cartes un peu cet été là-dessus.
Oui, exactement. Exactement. Donc ça fait tout près de 2 ans qu'on travaille là-dessus. Alors, il y a eu beaucoup de travail, de faits, il y a eu beaucoup de recherches, etc., même si ça demeure une fiction, parce que c'est la rencontre improbable entre Van Helsing, qui est plongé dans une profonde dépression après son retour en Transylvanie, qui était s'installer à Londres, et puis la rencontre avec Jack l'Éventeur, du moins une enquête qui est menée là, de ce côté-là.
Alors, on aura de quoi se reparler en septembre prochain.
Absolument.
Et parallèlement, vous parliez tout à l'heure, en fait, de la dynamique que vous aviez côté dessinateur-scénariste sur les druides. Donc, vraiment, en fait, le scénario, le dessin un peu plus séparé. Est-ce que c'est la même dynamique que vous avez sur Aven avec Kanji?
Autant que possible, comme moi j'ai un très grand respect pour le travail de mes scénaristes sur les druides ou sur Aspic, j'essaie autant que possible parce que je sais que maintenant je réalise tout le travail qui est fait pour justement structurer les univers. Je demeure toujours ouvert lorsque le dessinateur me fait des suggestions ou parfois il y a des incohérences aussi qui va relever. Je crois qu'il faut garder une certaine flexibilité de ce côté-là. Mais par contre, si on essaie de changer la structure de l'histoire, là on s'y perd. Donc, je crois qu'il faut qu'il y ait quand même des zones délimitées entre le travail du scénariste et du dessinateur pour qu'on s'y retrouve. Ou sinon, on fait vraiment une œuvre collective ou est-ce que les deux on travaille de concert à structurer puis à écrire l'histoire, mais c'est un petit peu plus difficile, je crois.
Et en même temps, Avan, c'est ce qui est intéressant aussi pour ceux qui ont raté le premier tome, le deuxième, en fait, on peut quand même s'y plonger. Je veux dire, il y a une notion d'une histoire qui se tient sur le tome, les questions qui sont soulevées pour le troisième, mais c'est un univers qui est quand même facile à appréhender pour le lecteur, en fait, quand on tombe dessus et qu'on arrive dedans, ça se passe bien, on plonge facilement dedans. Est-ce que c'était un peu un objectif aussi d'avoir quelque chose de facile d'abord, entre guillemets?
Absolument pas. en fait, bon, moi, comme je suis, je baigne dans le projet, c'est difficile pour moi d'avoir ce recul-là. Il est certain que j'essaie toujours de terminer avec un bon cliffhanger à chaque fin d'album. à savoir si chacun des tomes devient comme un véhicule en soi ou est-ce que bon on peut le lire indépendamment, je ne sais pas. Mais je pense que bon, comme je disais tout à l'heure, le ton est quand même assez léger avec Yuna et Haven. Donc le lecteur peut s'y retrouver quand même assez facilement. Là.
Oui, en fait, comme on dit, ça tranche avec les druides. En fait, c'est vraiment deux univers assez distincts, mais en restant dans le fantastique aussi. Dans le fond, c'est comme deux manières d'appréhender ce type d'univers-là, j'ai l'impression.
Absolument. Tandis qu'avec les druides, par contre, les pauvres lecteurs, lorsqu'il y a un nouvel album qui sort, ben on n'a pas le choix de presque relire les cinq autres albums précédents parce que c'est tellement dense au niveau des informations qu'on retrouve lorsqu'il y a un nouvel album qui sort, ben il faut se rattraper toute la lecture pour s'y retrouver de se replonger là, dans cet univers-là.
Et en tant que scénariste, en terminant, Jacques Lamontagne, avec Haven, vous êtes intéressé donc toujours à l'univers du fantastique aussi. Qu'est-ce qui vous attire dans ce type de BD-là, dans ce type de monde-là?
Au niveau fantastique, en fait, pour être honnête, pour Haven autant que pour Yuna, ça a été des projets de commande. Parce que j'ai pas forcément une culture heroic fantasy ou fantastique, et puis fantastique ça oui, mais par contre heroic fantasy un peu moins. Alors c'était vraiment j'ai essayé de faire monter des projets sur mesure pour les dessinateurs avec qui j'ai travaillé. J'ai pas d'atome vraiment crochu avec l'heroic fantasy, mais c'était surtout de servir les dessinateurs pour qu'ils se sentent à l'aise dans les univers que je leur offrais.
Donc, c'est de voir justement, exemple avec Kanji pour Haven, de quelle manière vous pouviez, à travers le scénario, à travers l'histoire, lui permettre d'exploiter au maximum, dans le fond, son dessin, son trait.
Ben exactement. J'avais une discussion avec Raphaël avant même de commencer l'écriture d'Haven. Et lui, il avait travaillé sur Blackwood. Il s'y retrouvait un petit peu moins. Et il m'a dit qu'il aimait dessiner créatures, tout ça. Donc, j'ai essayé de monter un univers, un environnement dans lequel il pourrait s'amuser. Parce que c'est tellement important que le dessinateur puisse s'amuser à travers un projet. Sinon, ça devient très, très long lorsqu'on s'investit sur 2 ou 3 ans et qu'on y trouve pas son compte. Comme dessinateur.
Alors comme on dit, la table est mise pour les prochains tomes et vous demeurez assez actif en fait, parce que je pense que j'avais compté à peu près quoi 5 projets dans incluant Van Helsing, Yuna, les druides, Haven et sûrement une autre que j'oublie. Ça fait un bon bassin de BD là, sur quoi à peu près 1,5-2 ans.
Là. Ouais, je comptais l'autre jour. J'ai commencé en fait, j'ai signé en décembre 2004 et depuis j'ai une quinzaine d'albums à mon actif. En tant que scénariste et dessinateur. Donc, c'est quand même un bon rythme de production.
Effectivement, on vous souhaite de poursuivre dans cette voie pour notre grand plaisir, évidemment.
Merci.
Jacques Lamontagne, merci beaucoup.
Merci pour l'invitation.
Et au plaisir.
Au revoir.
Alors voilà, c'était Jacques Lamontagne, donc dessinateur sur la série Les Druides, dont le tome 6 Crépuscule vient de sortir, et également scénariste de la série Haven, tome 2, donc l'anneau de Damnor qui vient d'apparaître en librairie. Les deux sont disponibles via l'éditeur Soleil. On prend une courte pause à venir, notamment David de Turgeon avec la muse récursive, également quelques commentaires BD.
Vous désirez devenir membre du 89.1? Allez sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton « Devenir membre ». Pour seulement $25, bénéficiez de nombreux rabais de nos précieux annonceurs. Votre carte est valide 1 an, peu importe la date d'achat.
Des rêves extraordinaires à réaliser? Ce vendredi, le gros lot du Lotomax est évalué à 30 millions de dollars. Lotomax.
La Barberie. Parce que nous sommes la Barberie.
Pire et lime et framboise. Blanche ou mûre.
Parce que nous sommes la Barberie.
India Pale Ale. Stout impérial. Cuivré ou thé. Brasse camarade.
La Barberie. Parce que nous sommes différents.
Folk. Soul. Groove. Afrobeat. Le vendredi 18h30, les rythmes de Jean-Baptiste Duvignon et Goulvendi font exploser CKRL. C'est 100% dynamite. Woman, woman. Woman to woman.
CKRL 89.1. Québec. Cultive tes goûts.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard.
26 ans de spectacle.
26 ans d'exposition.
26 ans à recycler.
26 ans de produits du Québec.
26 ans de bonne musique.
26 ans de party.
26 ans à s'impliquer dans le quartier.
26 ans d'entraide.
26 ans à changer le monde.
26 ans de Limoilou libre.
Souvent imité, mais le bal, c'est le bal. 1049 3e Avenue Limoilou. Lebaldulézard.com.
Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes de CKRL 89.1. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre via Facebook, La Vie en BD-CKRL 89.1. On a également un blog, lavieenbd.wordpress.com, sur lequel, entre autres, vous allez retrouver les podcasts des émissions précédentes. On le mentionnait en ouverture, on en parlait également la semaine dernière, nouvelle maison d'édition qui est apparue dans le paysage BDesque du Québec, c'est La Mauvaise Tête. Et avec l'apparition de cette maison est arrivée également deux parutions, albums, deux ouvrages, donc dont La Muse récursive de David Turgeon. Et cette semaine, on s'intéresse dans le détail à ce volume en compagnie de son auteur, David Turgeon. Bonjour.
Bonjour.
Alors, en fait, je le mentionnais en ouverture, ça fait un bon bout de temps que vous travaillez sur cette BD-là, quoi, à peu près 6 ans, 7 ans?
En fait, ça a été commencé en 2001, donc okay, bon, 10 ans. En fait. Ça a été fait sur une période de 10 ans.
Et dans le fond, c'est un peu le défi de réussir à l'éditer. Impression avec l'arrivée de l'album, du volume, que c'est la fin d'une longue route.
Oui, disons que 10 ans, c'est une partie d'une vie. Ça commence à... c'est spécial. J'ai l'impression de ne pas être tout à fait la même personne à la fin qu'au début.
Oui, ça doit être assez particulier aussi de retomber sur des planches qu'on avait fait au début et de les mettre avec des planches qu'on a fait aussi, j'imagine, un peu plus récemment. Donc, c'est vraiment un album qui s'est dessiné sur une période quand même assez prolongée.
Ben c'est certain. Moi, quand j'ai commencé ça, c'était un peu pour me remettre, en fait, à la bande dessinée, puisque j'en avais fait, disons, bon, au cégep, etc., mais j'avais lâché ça complètement. Et puis, quand je suis reparti, disons que je me suis un peu mis en position sans filet, dans le sens où je me suis dit, tiens, je vais dessiner sans crayonner, sans rien, juste pour avancer le plus possible dans une histoire que j'avais un peu en tête. Et c'est sûr qu'avec le coup, avec le temps, il y a des choses qui se sont structurées davantage, etc. Ça n'a pas été uniquement de l'improvisation sans crayonner, au contraire, mais ça reste que bon, il y a un peu ce travail-là aussi qui est là. Ce qui fait que ça fait un drôle de livre, disons, formellement, parce que, comme je dis, il y avait des, disons, des intentions assez différentes au début et à la fin, mais bon, à la fin, c'est surtout de le finir, de le boucler. Boucler une histoire, finalement, dont je savais déjà la fin depuis plusieurs années, et puis de dire, bon, il faut juste que je le fasse.
Et peut-être, justement, nous présenter un peu l'univers, parce que c'est une fresque, en fait, assez imposante que vous nous offrez avec La Muse récursive.
Oui, puis c'est pas nécessairement évident à résumer,
non,
en effet.
Non, c'est ça, je me suis dit, je vais vous laisser l'exercice, plutôt que de le prendre.
C'est sûr qu'au départ, disons que c'est un peu une histoire qui est autour d'une, on pourrait dire, d'une technologie un peu mystérieuse, qui est le Plurge, qui est, on pourrait dire, ce que j'appelle une nanopâte. Donc, en fait, c'est comment dire, c'est une espèce de truc avec lequel on peut à la fois contaminer, on peut construire des choses. Bref, c'est un peu un fourre-tout. En même temps, c'est un peu un MacGuffin aussi, là, parce que c'est jamais vraiment défini qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça peut faire. Disons que ça peut faire un peu n'importe quoi. Mais on se rend compte, bref, que c'est un truc qui est à la fois dangereux, mais à la fois bénéfique. Bref, c'est la bonne vieille histoire de la technologie qui peut être bénéfique ou bien maléfique selon les mains dans lesquelles elle tombe. Et bon, l'idée, c'était... Je pense que l'idée était surtout dans les personnages. C'est un peu là où je me suis vraiment amusé, parce que... Donc, au départ, j'avais l'idée des deux sœurs qui vivent dans une, disons, maison reculée et qui ont, disons, une relation un peu particulière, puisqu'il y en a une des deux qui, dont, disons, est autiste. Elle a, disons, une... disons, un comportement particulier, et sa grande sœur Nicole semble peut-être plus terre à terre, ou plus avoir une meilleure, disons, santé mentale, mais en fin de compte est peut-être c'est peut-être plus ambigu dans son cas. Donc c'est un petit peu d'animer ces deux sœurs là je dirais qu'ils sont peut-être un peu devenus les personnages principaux, quoi qu'il y a tellement de personnages dans cette histoire que je saurais difficilement dire qui est le personnage principal.
Non, effectivement, vous nous donnez une belle brochette, vous nous donnez une belle galerie de personnages là, dans la muse, justement. C'est...
Oui, ben c'est ça. Donc, bon, déjà avec Noise qui est le super-héros, mais dont on se rend compte éventuellement que c'est qu'il y ait peut-être autre chose que ce qu'il paraît. On a on a des gens du milieu des affaires, on a des journalistes, on a des artistes, on a je pense que je me suis amusé à mettre, je pense, le plus de gens possible dans cette salade-là. Et finalement, je pense que ça finit par donner une sorte de portrait finalement qui ressemble un petit peu à notre société, même si évidemment il y a des éléments un peu de science-fiction, etc., ce qui fait qu'on n'est pas tout à fait dans notre époque ou dans un truc qui est exactement nous, mais en même temps, je pense que enfin moi, plus je vois les choses qui se passent dans les nouvelles et autres, plus j'ai l'impression qu'en fait, je pense que les choses sont encore plus bizarres que j'ai pu raconter dans mon histoire.
Et en même temps, en fait, tout ça donne quelque chose qui est dense. C'est-à-dire, c'est une bonne lecture. Faut être attentif. Ça demande l'intelligence au lecteur. Mais quand on l'a terminé, on est content, comme on dit. C'est quand même un bon pari pour un auteur, justement, de se dire, bon, okay, on va se lancer dans quelque chose qui représente quand même une certaine ambition. Je veux dire, c'est un sacré pari que vous avez fait avec la muse, j'ai l'impression, du moins.
Ben, sans doute, je sais pas. J'ai l'impression que dans un sens, c'était un truc qui me semblait, je dirais, relativement facile à faire. Je pense qu'à partir du moment où disons, je comprenais mes personnages, les personnages que je mets en scène, que je comprends les que je veux faire avec ce projet-là, finalement, l'idée, c'était surtout de le mener à terme. C'est surtout, je dirais que le vrai pari, c'est de se rendre jusqu'au bout, parce que c'est vraiment très long. De toute façon, la bande dessinée, c'est ingrat. Puis même quand on dessine vite, ça reste que c'est très long de se rendre à 318 pages.
Et côté dessin, d'ailleurs, en fait, c'est un dessin un peu touffu, un peu brouillon, hachuré. Ça semble peut-être un peu faire écho à l'univers. En fait, du moins, je trouvais que c'était dans la continuité un peu du récit qui était présenté, mais du bon côté de ces termes-là, là, évidemment. Mm-hmm. Est-ce que c'est un peu dans cet esprit-là que vous l'avez, ou c'était un peu la force de la nécessité, ou un peu des deux?
Ben, je pense qu'il y a probablement un peu des deux. C'est sûr qu'on... Les choses qu'on raconte sont toujours un peu à la fois dictées et limitées parce qu'on sait faire, entre guillemets. Je me vois pas comme un très grand dessinateur, mais je pense que j'ai fini par développer une certaine habileté, disons, à faire quelque chose malgré tout avec une plume. Mais c'est sûr que oui, c'est brouillon, c'est fait exprès. C'était évidemment, entre autres, pour avancer plus vite. Pour éventuellement arriver à la fin. C'est sûr que si je faisais quelque chose de vraiment très léché, j'aurais pas fini. Ça prendrait un studio, je sais pas. C'est, à un moment donné, il y a ça aussi, c'est qu'on est un peu dans cette situation-là, de toute façon, au Québec, où on essaie de faire des histoires ambitieuses avec des très petits moyens, avec des éditeurs qui sont pas nécessairement capables de nous donner des avances sur droit, des choses comme ça. Donc, mine de rien, on fait les choses à côté d'un autre travail. Donc, moi, c'était un peu mon moyen d'avancer plus vite, c'est-à-dire, bon, ben, je vais pas trop m'attarder à avoir un truc parfait. De toute façon, C'est d'arriver à la perfection qui est le plus long. À un moment donné, je pense qu'on peut avoir un dessin qui est 90% juste, et ça, c'est très rapide d'y arriver. C'est pour obtenir le 10% supplémentaire que l'on on finit par se casser la tête. Quelqu'un comme Franquin, il a perdu presque la raison.
Effectivement. Et dans tout ça, vous mentionniez tout à l'heure, côté récit, au départ, vous êtes lancé un peu à l'instinct et éventuellement, ça s'est mis à organiser un peu, à réguler le récit, justement, pour s'imposer une fin ou jouer un peu avec ça. C'est comment un peu c'est passé le développement scénaristique de la muse récursive?
Eh bien, à la base, disons qu'il y avait quelques idées qui étaient là. En fait, souvent, ma manière de commencer une histoire, c'est que je vais avoir deux ou trois idées que je vais... et puis, disons que j'arrange une collision entre elles, collision contrôlée entre elles. L'idée, finalement, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui peut se passer des suites de cette collision-là, finalement, de personnages ou de situations qui vont pas d'emblée ensemble. Après, ça fait un paquet de fils. On essaie de les rassembler. Des fois, il y en a qui vont franchement nulle part et puis il faut juste les assumer. En fait, les fils qui vont nulle part, c'est toujours assez amusant de les assumer parce que, justement, ils finissent par nous rappeler un peu, disons, le réel, le monde dans lequel on vit, dans lequel on vit tous les jours, qui est finalement qu'il n'y a pas de logique réelle non plus. Il n'y a pas de logique dans les choses qu'on fait au jour le jour. Et c'est un petit peu pour ça aussi la citation que j'ai au départ, la citation de Wittgenstein qui dit l'énigme n'existe pas. C'est un peu aussi ce que je voulais raconter dans le livre en même temps. Donc, c'est une des choses qui est dans le livre, c'est-à-dire que il n'y a pas de grand complot qui organise tout. En réalité, c'est un paquet de personnes qui essaient chacun de faire leur truc, d'avancer leurs intérêts. Parfois, ils parviennent, parfois, ils n'y parviennent pas. Parfois, on a payé le prix, parfois, ils sont chanceux. Et c'est un peu de mélanger toutes ces choses-là. Finalement, il finit par se passer quelque chose tout simplement en faisant avancer les pions tranquillement. Parce qu'il y a tellement de pions, il y a tellement d'événements qu'il y a énormément de possibilités de collision entre les personnages, entre les événements. En fait, je suis presque autant spectateur qu'auteur de cette histoire-là.
Et c'est se donner, c'est se mettre en danger, mais en même temps, c'est se donner beaucoup de liberté aussi en tant qu'auteur de procéder comme ça.
Oui, mais en même temps, bon, c'est pas non plus... c'est le vrai risque, en fait, c'est toujours de faire un truc qui est incompréhensible pour les gens ou qui n'est pas intéressant. Donc, c'est sûr que... Oui, c'est ça la vraie mise en danger, puisque franchement, faire des pages et des pages et des pages, je pense que c'est à la portée de n'importe qui, mais le problème, oui, c'est probablement d'en faire quelque chose de digeste.
Et en fait, on souligne, et j'en profite pour le souligner, la muse récursive demeure digeste, donc n'ayez crainte.
Ouf.
Voilà.
Ben, c'est un peu ce que... Disons que c'est... Je dirais que c'est un peu mon espoir, finalement, c'est qu'arrivé à la fin, les gens apprécieraient. Moi, c'est pas un livre que j'ai... qui pour moi est pour un public très disons c'est pas pour un public élitiste ou quoi que ce soit. Là, je sais que des fois je fais des histoires qui sont peut-être un peu plus personnelles, qui dans le fond, dont si ça ne touche que 50, 100, 200 personnes, ça me dérange pas particulièrement. J'ai l'impression que la muse récursive, c'est une histoire qui est un peu plus disons accueillante à un peu tout le monde, c'est-à-dire que si... Enfin, et jusqu'à maintenant, disons qu'avec les commentaires que j'ai finalement de gens d'un peu tous les qui ont toutes sortes de goûts, des gens en bande dessinée, etc. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié, qui se sont retrouvés dans cette histoire-là. Je suis assez encouragé, en fait.
Et on invite donc les gens à y jeter un coup d'œil. David Turgeon, merci beaucoup.
Ben merci à vous.
Et au plaisir.
Ok. Au revoir.
Au revoir. Alors voilà, c'était David Turgeon, donc auteur de La Muse récursive. C'est publié à La Mauvaise Tête. Petite mention au passage, ce lundi 30 avril, il y aura troisième rencontre des micros ouverts de la BD à la librairie Phylactère. Et cette fois-ci, c'est Kaylin Johnson qui agira à titre de lectrice invitée. Kaylin, qui est une auteure de fanzines et de BD auto-publiées, qui est bien appréciée d'ailleurs du public de Québec. On lui doit entre autres Freaky Facts, Bob et Roger, ainsi que What the Fuck et Fanta. Elle anime également un blog BD depuis 2008. Et elle va nous présenter ses coups de cœur dans la sphère de l'autobiographie en bande dessinée, côté album, mais aussi côté fanzine. Alors, ce sera une belle opportunité, je pense, de découverte pour tout lecteur intéressé à explorer cet univers-là. Alors, c'est lundi, le 30 avril, c'est à compter de 18h30 chez Phylactère, sur la rue Saint-Joseph.
Sur un ordre croissant, tu voudras que je préfère. J'irai évidemment, mais je veillerai le feu avec toi. Je veillerai le feu avec toi. Main pleine d'éclats de verre. De morsures de chiens guériront dans la rivière. Poudres-tu de moi demain quand je verrai le feu avec toi? Je verrai le feu avec toi. Ton dos n'en aura plus besoin. Ne bouge pas. Ne bouge plus.
Et voilà, on vient d'entendre Veiller le feu, la formation avec podcast, toujours dans le cadre de l'émission La vie en BD. Sprint final de l'émission, un petit regard sur une BD sur laquelle je suis tombé récemment, un manga vraiment étonnant, en fait, dans la mesure où c'est ce genre d'ouvrage d'emblée, mais ben, en fait, si on le feuillette, un dessin quand même assez standard, pas particulièrement frappant, disons que c'est ce genre de BD, on la regarde comme ça, elle a l'air de rien, en fait, avouons-le, mais par contre, quand on se met à la lire, quand on décide de l'explorer au niveau du récit et de l'émotion qui est associée à ce récit-là, eh bien là, on découvre un ouvrage qui, à mon sens, est carrément exceptionnel. Ça s'appelle sans même nous dire au revoir. C'est de Kentaro Ueno. C'est chez Kanak. Ça a été publié. Et essentiellement, ce qui se passe dans cet ouvrage-là, c'est donc le mangaka, donc Monsieur Uno, qui il nous l'explique d'ailleurs dès le départ, qui nous dit regardez, habituellement, je suis quelqu'un qui fait de la bande dessinée humoristique, satirique, mais ici, ce sera pas du tout le cas. Ce n'est pas un récit qui est là pour faire du bien, pour faire du mal. C'est simplement un acte de mémoire que je fais. Je vous raconte comment j'ai vécu le décès de mon épouse. Alors, c'est une œuvre autobiographique et l'auteur se raconte le carrément jour après jour, du moment de la mort jusqu'à la suite, à ce processus de deuil qu'il fait aux côtés de sa fille. Une nécessité peut-être pour lui de raconter cette histoire-là, peut-être pour mieux comprendre, pour mieux saisir ce qui s'est passé pendant les journées, les mois qui ont suivi le décès de son épouse, pour également peut-être pouvoir lui rendre un dernier hommage, lui dire, dans le fond, cet au revoir qu'il n'avait pas pu lui dire au moment du décès de sa femme qui est morte dans des circonstances assez rapide en fait, et donc ça donne un ouvrage qui est, j'irais pas prenant, mais profondément émouvant, parce que personnellement je suis pas capable de le lire longuement. C'est vraiment par petites séquences que je le lis, parce qu'à un moment donné on a un trop plein d'émotions en fait. Dès qu'on a vécu un deuil, c'est le genre d'ouvrage qui vient nous chercher. Si on connaît des gens qui ont vécu le deuil, c'est probablement un ouvrage aussi qui va venir vous chercher tout autant. Donc vraiment une expérience vécue racontée, je dirais pas avec naïveté, mais avec une franchise, une simplicité qui est complète, et donc qui nécessairement vient nous chercher. Et c'est le deuil d'une personne, au bout du compte, c'est un peu le deuil de tout le monde, c'est quelque chose qu'on vit de manière similaire d'un individu à l'autre, et donc en ce sens-là, c'est un récit quand même assez universel aussi qui nous propose, et c'est peut-être aussi ce qui explique que ça vient autant nous chercher, que ça vient autant faire grouiller des émotions en nous, et qui fait que on le lit à petite dose. Donc vraiment, un récit réussi d'une rare émotion, une histoire donc simple, d'un drame simple qui pourrait arriver à n'importe qui, n'importe quand, et c'est cette banalité-là, entre guillemets, dans l'émotion qui donne toute la force à ce récit-là. Donc un morceau triste d'une vie ordinaire au bout du compte, mais qui vient chercher complètement dans l'universel. En fait, cette citation, on dit, ben plus on va dans le personnel, plus on devient universel. Mais dans ce cas-ci, si c'est le cas, il n'y a pas tant à dire, sinon de vous indiquer que si vous avez envie d'explorer ce type d'émotions-là, de porter un regard sur ce volume-là, eh bien, faites-le, n'hésitez pas. Donc, sans même nous dire au revoir, de Kentaro Uno, c'est chez Kana. Et nous, c'est ainsi qu'on termine l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, vendredi prochain. On va parler notamment de Motel Galactique tome 2, également ta BD en 9 étapes. Alors, on aura notamment Francis Dernay et Jean-Marc Pacelli avec nous. Alors, c'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous cette semaine. Et dans quelques instants, c'est Marc Baudet qui prend la relève. Alors, passez un bon week-end sur les ondes du 89.1.